VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 22 août 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, deux attaques dans la région de Mopti font plusieurs morts.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu en fin de semaine prochaine en RDC.
Les présidents du Rwanda et de l'Ouganda signent un accord destiné à mettre fin aux tensions entre ces deux anciens alliés.
Le président américain Donald Trump a dénoncé hier, je cite, « le ton méchant de la première ministre danoise qui a qualifié d'absurde son souhait d'acheter le Groenland ».
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, deux attaques séparées dans la région de Mopti, à Boni et à Douna, ont fait au moins 7 morts. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est un long convoi de gros porteurs et de porte-chars escortés par les FAMA qui est tombé dans une embuscade entre Ambori et Boni dans la région de Mopti. Au cours de cette opération, les FAMA déplorent 5 morts. Le matériel aussi a été détruit. 5 véhicules brûlés, dont 4 Porsche-chars. Par ailleurs, une autre attaque a eu lieu dans le cercle de Douanza, commune de Mondro, plus précisément dans le village de Douna. Elle a fait 2 morts et 3 blessés, tous des civils. Si cette attaque est attribuée à des groupes armés dans la région de Mopti, celle de Boni a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une organisation militaire et terroriste affiliée à Al-Qaïda basée au Mali. Elle affirme aussi détenir 2 militaires maliens, en plus de 5 tués dans l'embuscade entre Boni et Hombori. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rendra le samedi 31 août en République démocratique du Congo. Il commencera par le Nord Kivu avant de se rendre à Kinshasa. Eddy Issango.
Antonio Guterres est attendu au terme d'un voyage qu'il aura conduit auparavant en France pour les sommets du G7 et au Japon pour une conférence sur le développement en Afrique, a précisé Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU. Ce déplacement de M. Guterres durera 3 jours avec une première escale dans la province du Nord Kivu pour mobiliser davantage de moyens face à l'épidémie d'Ebola, a indiqué les porte-paroles. La fièvre hémorragique d'Ebola a déjà tué plus de 1930 personnes et l'OMS l'a élevé au rang d'urgence sanitaire mondiale. Le secrétaire général de l'ONU rencontrera des survivants et des personnels soignants dans un centre de traitement contre la maladie. Toujours dans l'est de la RDC, il étudiera aussi l'application du mandat des casques bleus pour protéger les civils. Antonio Guterres verra ensuite à Kinshasa les présidents Félix Tshisekedi et d'autres responsables gouvernementaux, des membres de l'opposition et des représentants de la société civile. Cette visite en RDC, initialement envisagée à l'été 2018, a déjà été repoussée à plusieurs reprises.
Les présidents du Rwanda, Paul Kagame, et de l'Ouganda, Yoweri Museveni, ont signé hier en Angola un accord destiné à mettre fin aux tensions opposant les deux voisins, et ce en présence de leurs homologues, João Lourenço de l'Angola, Félix Tshisekedi de la RDC et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Kigali et Kampala, deux anciens alliés, en étaient venus à s'accuser mutuellement d'espionnage, d'assassinat politique et d'ingérence. Selon un communiqué commun, messieurs Kagame et Museveni se sont engagés à respecter, je cite, leur souveraineté réciproque et celle de leur pays.
Les deux présidents ont aussi décidé de s'abstenir d'actions de déstabilisation ou de subversion sur le territoire de l'autre partie, ainsi que de financer, former et infiltrer des forces déstabilisatrices. Paul Kagame et Yoweri Museveni se sont également mis d'accord pour reprendre dès que possible les déplacements de personnes et de biens à travers leurs frontières.
Au Tchad, deux sources militaires, dont un haut responsable de l'état-major des armées, ont affirmé hier à l'AFP que 3 personnes ont été tuées lundi en essayant d'attaquer une gendarmerie à Bardaï, dans le nord, où l'état d'urgence venait d'être déclaré. Un soldat a tué son chef avant de fuir pour se réfugier à la brigade de gendarmerie, a expliqué une des sources. La famille du militaire tué a tenté d'attaquer la brigade pour se venger, provoquant une riposte des gendarmes qui a fait 3 morts et 4 blessés graves, a-t-elle ajouté. ajouté.
Au Soudan, la transition vers un pouvoir civil né de l'accord historique entre les militaires et la contestation a pris corps mercredi avec l'investiture du Conseil souverain et d'un nouveau Premier ministre salué par l'ONU. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Plus de 4 mois après la destitution et l'arrestation du président Omar El-Béchi, poussé vers la sortie par des mois de manifestations, le Soudan a de nouvelles institutions, le Conseil souverain devant superviser la transition qui durera un peu plus de 3 ans. Un gouvernement devrait être formé dans la semaine qui vient, puis les nouvelles institutions s'attelleront à tenter de redresser le pays. L'économiste Abdallah Hamdok, un ancien des Nations Unies, a prêté serment comme premier ministre lors d'une brève cérémonie hier à Khartoum. Les priorités du gouvernement seront d'arrêter la guerre, de construire une paix durable, de faire face à la sévère crise économique et de mettre en place une politique étrangère équilibrée, a-t-il déclaré à des journalistes. Quelques heures plus tôt, le Conseil souverain, avec à sa tête le général Abdel Fattah al-Burhan, avait été intronisé en remplacement du Conseil militaire de transition qui avait pris les rênes du pays depuis la chute de M. Béchi le 11 avril. Ces deux avancées ont été saluées dans un communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit de pas importants pour apporter la paix et la sécurité à la population du Soudan, souligne ce texte publié à New York. L'intronisation du nouveau Conseil a été bien accueillie dans la rue, mais des habitants ont averti qu'ils resteront vigilants.
En Libye, les forces loyales au gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli ont affirmé mercredi avoir gagné du terrain au sud de la capitale face aux forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Elles disent avoir repris d'importantes positions, dont l'Académie de l'armée de l'air et des secteurs qu'occupaient les forces pro-Haftar. Ces dernières, qui ont lancé le 4 avril une offensive pour conquérir Tripoli, soutiennent en revanche avoir repoussé l'offensive du GNA et infligé, je cite, d'importantes pertes aux milices ennemies.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump s'est dit hier favorable au retour de la Russie au sommet du G7, bien que Moscou contrôle toujours la Crimée en Ukraine. La Russie a été exclue du G8 après son annexion unilatérale de la Crimée en 2014. Les membres du G7 se retrouvent ce week-end à Biarritz, en France, pour leur sommet annuel. Pour M. Trump, ce serait bien plus sensé si son homologue russe Vladimir Poutine faisait de nouveau partie du groupe des principales économies du monde.
Et puis le président Trump a dénoncé hier ce qu'il a appelé le ton méchant de la première ministre danoise qui avait qualifié d'absurde son souhait d'acheter le Groenland. Le président américain justifie ainsi sa décision d'annuler sa visite au Danemark qui était prévue début septembre. Le point avec Ekia Badou.
J'ai pensé que le communiqué de la première ministre était méchant, a dit le président américain, ajoutant qu'elle aurait pu juste dire non, nous n'avons pas envie de vendre le Groenland. La veille, Donald Trump avait annoncé dans une salve de tweets l'annulation de sa visite au Danemark, qui était prévue début septembre. Peu après, Copenhague a joué l'apaisement. Mette Frederiksen, la première ministre, a assuré qu'il n'y avait pas de crise entre les deux pays, même si l'annonce du président américain a suscité la surprise de la reine Margaret. En fin de semaine dernière, la presse américaine a révélé que M. Trump s'était renseigné sur la possibilité pour les États-Unis d'acheter le Groenland, immense territoire de quelque 56 000 habitants. La première ministre danoise avait qualifié l'idée d'absurde. Pourtant, c'est le Danemark qui avait vendu aux États-Unis en 1917 ce qui s'appelle aujourd'hui les îles Vierges. Et en 1946, le président Harry Truman avait déjà offert d'acheter le Groenland.
Le président Trump a par ailleurs provoqué une nouvelle polémique avec les Juifs américains en suggérant qu'ils feraient preuve d'un manque total de connaissances ou de grande déloyauté en votant démocrate. Ces derniers ont depuis des décennies voté massivement pour les candidats démocrates à la présidence et contre leurs rivaux républicains, dont le candidat Donald Trump en 2016. Le président américain a précisé hier qu'il parlait de déloyauté envers le peuple juif et Israël. Les démocrates se sont vraiment éloignés d'Israël, a-t-il dit, dans une allusion à sa querelle avec les deux députés musulmanes démocrates, Ilhan Omar et Rachida Tlaib, connus pour leur critique contre Israël.
La Corée du Nord a déclaré ce jeudi ne pas être intéressée par une reprise du dialogue sur le nucléaire avec les États-Unis, et ce tant que Washington n'aura pas mis un terme à ce qu'elle a appelé l'escalade de ses activités militaires hostiles. À noter que cette déclaration coïncide avec la visite à Séoul, en Corée du Sud, de l'envoyé spécial américain Stephen Biegun, qui pour renouer le dialogue. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La société des plantations du Haut-Pendia PHP, une filiale camerounaise de la compagnie fruitière de Marseille, n'a récolté que 12 tonnes de poivre de Pendia l'an dernier, contre 40 tonnes habituellement. Cette baisse est la conséquence de la diminution des surfaces cultivables à 21 hectares, alors qu'elles étaient de 40 hectares il y a quelques années. Des champignons nocifs déciment les plantations et détruisent les racines de poivriers, obligeant la société à recycler les anciennes plantations de poivre en bananeraie. Les exportations de phosphate dans les pays de l'UEMOA ont connu une hausse de 18,6% l'an dernier, soit 2 738 100 tonnes contre 2 307 900 tonnes un an plus tôt, rapporte TogoFest. Le Togo vient en tête avec 28,5% de la production de phosphate, suivi du Sénégal avec une hausse de 14,1%. La production d'or a également augmenté dans l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. L'uranium a en revanche diminué de 17,2% en Côte d'Ivoire, alors que le pétrole a décru de 16,3% au Niger. Terminons avec la Banque centrale américaine, la Fed, qui estime que la faible croissance mondiale et les tensions commerciales risquent de ralentir l'économie des États-Unis. La Fed, qui va se retrouver à nouveau le 18 septembre pour déterminer la politique monétaire, dit vouloir conserver ses options ouvertes sur l'évolution des taux d'intérêt. Une grande majorité d'analystes s'attendent à une autre réduction des taux directeurs. Le président Donald Trump, lui, ne cesse de faire pression sur la Banque centrale pour qu'elle baisse le coût du crédit d'un point entier de pourcentage.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Jeux africains 2019, le taekwondo était à l'honneur hier.
Oui, et comme il fallait s'y attendre, l'Ivoirien Cher Cissé, champion olympique de la discipline, a fait respecter son statut, même si l'Égypte fait toujours la course en tête en termes de médailles collectées. On fait le point avec Kader Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, présentement sur place à Rabat.
Le plus connu de tous, l'Ivoirien Cher Cissé, médaillé d'or aux Jeux olympiques de Rio 2016 au Brésil, s'est qualifié sans difficulté pour les demi-finales. Il s'est d'abord débarrassé du Sud-Soudanais Loïc Louis au premier tour, avant de marcher sur le Nigérian Idrissa Mahamadou en quart de finale avec plus de 24 points d'écart. Il demeure une valeur sûre pour la Côte d'Ivoire dans la conquête de la médaille d'or dans la catégorie des moins de 80 kg. Pour ce qui est du tableau des médailles, c'est l'Égypte qui domine pour le moment les débats avec 14 médailles, dont 5 en or, 4 en argent et 5 en bronze. Elle est suivie de l'Algérie qui totalise également 15 médailles, mais 5 en or, 3 en argent et 7 en bronze. Le Maroc complète le podium avec 13 médailles, dont 3 en or, 5 en argent et 5 en bronze. Kader Traoré à Rabat pour VOA Afrique.
En football, le Mali a fait chuter le Burundi.
Après son match nul 0-0 face au Sénégal lors de la première journée dans le groupe B, le Mali a corrigé le Burundi 3-0 grâce à un doublé d'Abdoulaye Kanou et un but de Moussa Diarra. Les Aiglons juniors peuvent espérer une qualification pour le dernier carré. Ils comptent désormais 4 points et jouent leur dernier match de groupe face au Ghana samedi. Suite à cette deuxième défaite en autant de sorties, le Burundi, lui, est d'ores et déjà éliminé.
La FIFA a nommé un comité de normalisation à la Fédération égyptienne de football.
Ce comité, composé de 5 personnes, est présidé par Amr Youssef Hassan Al-Ghanaini. Il a été nommé par la FIFA suite à la démission de son président durant la CAN. Ani Abou Rida a présenté sa démission et limogé toute l'équipe technique de la sélection nationale. Après son élimination surprise en huitième de finale de la CAN, disputée à domicile, la FIFA a nommé un comité de normalisation qui devra, entre autres, assurer la gestion des affaires courantes et organiser des élections pour tous les membres de la Fédération égyptienne de football. Selon le communiqué de l'instance mondiale du football, la mission de ce comité expirera au plus tard le 31 juillet 2020.
Athlétisme, la Kenyane Hélène Obiri s'alignera sur 5 000 et 10 000 mètres.
Et oui, la spécialiste kényane du demi-fond a annoncé qu'elle va courir à la fois les 5 et 10 km aux Mondiaux de Doha, prévus du 28 septembre au 6 octobre. Tenante du titre sur 5000 m, Hélène Obiri s'est qualifiée pour le 10 000 m en terminant deuxième de la course qualificative de la Fédération kényane. Derrière Agnès Tairop, médaillée de bronze aux Mondiaux de 2017, Obiri ambitionne de devenir l'une des rares athlètes à gagner sur les deux distances lors des mêmes championnats.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, on se pose toujours des questions sur l'attaque terroriste qui a fait au moins 24 morts lundi et 5 disparus dans le nord du pays. L'attaque a visé le détachement militaire de Koutougou dans le Sahel burkinabé. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, notre correspondant Lamine Traoré a pu entrer en contact avec un habitant de Koutougou dont il n'a pas voulu, pour sa sécurité, dévoiler l'identité.
Il est jeune, il a 25 ans et est habitant de Koutougou depuis maintenant 11 ans. Cet ancien commerçant a été témoin de l'attaque qui a visé le détachement militaire de Koutougou dans le Sahel lundi tôt le matin. Entre son domicile et le détachement militaire, il n'y a que 3 kilomètres.
Le jour de l'attaque, là, nous, on était au village en tout cas. C'était au moment de la prière.
Notre témoin qui est musulman explique.
De 5h jusqu'à 7h30, ça tirait. On a même pu en tout cas appeler, informer qu'en tout cas ça tire. Avec tout ça là, en tout cas, on n'a pas vu renfort ni rien.
Selon notre habitant, les assaillants sont venus de l'ouest du village et sont répartis de ce même côté. Ils étaient plusieurs dizaines et à moto. Les bilans de l'attaque a été lourd. Au moins 24 soldats tués, 7 blessés et 5 portés disparus selon l'état-major général des armées. Notre témoin raconte que le village est désormais laissé à lui-même, sans sécurité, et le site du détachement est désormais abandonné.
On a pris qu'ils sont tous partis, on ne sait pas. À l'heure là même, tout le village est vide. Ils sont montés les collines là. S'il n'y a pas l'armée là, je sais qu'il y aura beaucoup de morts. Si les terreaux là, si bien que les militaires là sont quittés Koutougou, je sais qu'ils vont venir.
Notre jeune homme a pu quitter Koutougou pour rejoindre Arbinda, une localité voisine. Il dit avoir eu beaucoup de chance.
Quitter Koutougou, venir à Arbinda actuellement là, si ce n'est pas, tu vas suivre les militaires là, ce n'est même pas possible. Tu sors 1 kilomètre seulement là, tu es un cadavre. Encore la population aussi en train de s'inquiéter. D'ici demain matin à 7h, s'ils ne voient pas les armées, en tout cas, ils vont voir comment faire pour pouvoir arriver à Arbinda. Même s'ils vont mourir en cours de route, ils disent qu'ils vont débrouiller pour pouvoir arriver à Arbinda.
De nombreuses personnes sont déjà parties de Koutougou et cela ne date pas de cette attaque. Cet homme, un leader de Koutougou, est à Ouagadougou depuis maintenant 6 mois.
Les leaders communautaires, religieux et coutumiers, les personnes ressources et même les agents de la mairie étaient des cibles potentielles. En ce qui me concerne, j'étais dans une position que je savais que vraiment ma vie était en danger. Donc j'étais obligé de me retrancher un peu à Yibo. Beaucoup plus à Ouagadougou ici.
Les forces de l'ordre auraient été informées de la préparation de l'attaque de lundi.
On a appelé, on a même informé. Depuis que nous on a appelé ça, on a donné l'information là. Mais avec tout ça là, vous voyez ce qui s'est passé. En tout cas, moi je me dis aux autorités burkinabè, ils n'ont qu'à changer et regrouper pour qu'on puisse lutter contre ces gens de trucs-là.
Avant l'attaque de lundi, le commissariat de police de Koutougou avait été attaqué en novembre 2017. En avril 2018, dans sa mosquée, le maire a été assassiné. Après l'attaque de lundi, mardi, le président Kabore a tenu un conseil de défense. Il a rassuré que malgré cette adversité, le Burkina s'en sortira. L'opposition, quant à elle, demande simplement la démission du gouvernement, qui, selon elle, est incapable de faire face à la donne sécuritaire. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Nous vous le disions hier, le doyen de la presse guinéenne, Souleymane Diallo, fondateur du groupe de presse Le Lynx, La Lance, et Aboubacar Diallo, directeur de la radio Lynx FM, ont été placés sous contrôle judiciaire pour, je cite, complicité de production, de diffusion et de mise à la disposition d'autrui des données de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique. Fin de citation. Il s'agit d'une disposition qui figure dans la loi sur la cybersécurité de juillet 2016. Les journalistes ont été inculpés après une intervention de la dissidente Doussou Kondé dans l'émission Œil de Lynx. Nathalie Barge a joint l'un des avocats de M. Diallo, Maître Mohamed Traoré.
Nous avons été au niveau de la direction centrale de la police judiciaire où M. Diallo, pour protester contre le fait que la base de la poursuite n'était pas légale, il n'a pas voulu s'exprimer devant les enquêteurs au niveau de la police. Et c'est ainsi que le dossier a été transmis au procureur du tribunal de Kaloum, qui est spécialisé dans le domaine des infractions qui entrent dans le cadre de la cybercriminalité. On nous a parlé d'un enregistrement de cette émission et au cours de cette émission, Mme Doussou Kondé aurait tenu des propos qui avaient été au départ qualifiés de délit contre l'autorité publique. Ça concerne en particulier l'offense au chef de l'État. C'est au niveau du parquet que cette qualification a été abandonnée pour celle de production, de diffusion et de mise à disposition d'autrui de données de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la dignité humaine par le biais d'un système informatique.
Pourquoi des accusations si graves sur la base de cette loi dont vous avez parlé?
Ce qui nous inquiète, c'est moins les poursuites que la base légale de la poursuite. En Guinée, depuis 2010, il y a une loi sur la liberté de la presse qui dépénalise partiellement les délits de presse. Autrement dit, aujourd'hui en Guinée, un journaliste ne peut pas faire l'objet d'une mesure privative de liberté en cas de commission d'une infraction. La seule sanction qui peut lui être infligée au plan pénal, c'est une amende. Mais comme cette loi sur la cybersécurité comporte des peines d'emprisonnement, elle est beaucoup plus répressive. Je pense que c'est pour cette raison qu'on y fait recours afin d'intimider les journalistes.
Quel type de restrictions ont été imposées à Souleymane Diallo et notamment à Aboubakr?
En ce qui concerne M. Souleymane Diallo, il est mis en liberté sous contrôle judiciaire, ce qui l'oblige à être présent deux fois par semaine au niveau du greffe du tribunal. Il lui est également interdit de sortir des limites de Conakry. Et pour le second, Diallo Aboubakr, lui, les mesures sont encore plus énergiques parce qu'il doit se présenter au tribunal trois fois par semaine. Il lui est interdit de sortir de Conakry sans l'autorisation du juge et il lui est interdit de prendre part à l'émission qu'on appelle l'œil du lynx.
Qu'est-ce que vous envisagez?
Nous avons décidé de relever appel de ces mesures-là et nous allons demander à ce que le dossier soit transmis au niveau de la chambre de contrôle de l'instruction à la cour d'appel de Conakry pour que ces mesures-là soient levées parce que nous estimons qu'elles ne sont pas du tout justifiées, n'ont pas lieu d'être.
Joint à Conakry en Guinée, Maître Mohamed Traoré.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
La première édition du Grand Carnaval de Dakar se tiendra du 8 au 10 novembre 2019 dans la capitale sénégalaise. Objectif: promouvoir la culture du pays de la Teranga. Pour en savoir plus sur cet événement, Irénée Herman Ungbo a joint la promotrice Fatou Kassessar qui donne ici des précisions.
Nous voulons proposer à travers une fête sur 3 jours de découvrir un peu diverses culture du Sénégal à travers une parade, un village du carnaval, une dégustation d'un plat national et la représentation donc des 14 régions du Sénégal.
Alors le Sénégal a plusieurs villes touristiques attractives, j'allais dire notamment Saint-Louis, Sali,
oui.
Sans oublier la Casamance. Quelle ville abritera ce carnaval et quelle sera sa particularité?
C'est Dakar. Nous avons choisi Dakar parce que Dakar, c'est la capitale. Dakar a un nom, Dakar a de l'eau également. Pour un événement de cette envergure, Dakar a la capacité de l'accueillir. Place de l'Obélisque, les allées du centenaire pour la parade et le monument de la Renaissance pour le Grand Thiaboudien.
Vous aviez parlé notamment de la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir à ce carnaval? Seulement l'art culinaire et qu'est-ce qu'il y a à découvrir?
Alors, ce qu'il y a à découvrir, c'est des dégustations de diverses régions sur le village du carnaval. Ensuite, de la gastronomie locale, on va dire. Donc, nous prévoyons une dégustation géante de Tchèboudjoun.
Est-ce un carnaval où il y aura toutes les activités récréatives, festives représentées à cet événement?
Étant donné que nous faisons la promotion de la culture, il y aura bien sûr de l'art culinaire. Mais le carnaval, territoire de Sénégal, ça passe par la valorisation à travers les costumes, par exemple, à travers le folklore, à travers les masques. Il y aura un village du carnaval avec des animations. Chaque région pourra montrer un peu. Il y aura de la musique, il y aura une parade du carnaval en costume traditionnel avec les kumpos, les simbogaïnés et tout cet aspect masque, avec des instruments de musique également différents, divers. Il y aura de la mode, il y aura également un coin coiffure d'ailleurs avec les salons Latifa de Awanau. Donc il y aura un coin avec coiffe et coiffure traditionnelle. Nous aurons par exemple Didier Awadi qui est avec nous et nous sommes en train de booker donc un certain nombre d'artistes parce que nous voulons que ce soit vraiment populaire, nous voulons faire venir la jeunesse à l'événement, nous voulons qu'il y ait du monde. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le concert sera gratuit en grande partie.
C'était Fatou Kassessar, promotrice du Grand Carnival au Carnaval de Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Depuis plus de 50 ans, coiffeur de Washington coupe les cheveux des présidents américains. Il est même devenu une sorte de légende aux États-Unis, voire à l'étranger. De nombreux présidents et dirigeants du monde sont devenus ses clients. Jacopo Luzzi a interviewé l'homme surnommé le coiffeur des présidents. Son reportage est repris ici par Michel Joseph.
Les présidents Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton sont quelques exemples de clients de Diego D'Ambrosio. Ce coiffeur d'origine sicilienne, basé à Washington, a coupé les cheveux de plus de 46 chefs d'État depuis 1968. Pour lui, c'est un privilège de couper les cheveux de tant de personnalités politiques, mais il ajoute que chaque client est important.
Tout le monde est important. Les personnes qui viennent ici, nous leur donnons la même chose.
En 2010, le maire de Washington DC a renommé la rue où se trouve son salon de coiffure. Avant, c'était Q Street. Maintenant, c'est nommé Allée Diego D'Ambrosio. Les fidèles clients reviennent parce qu'ils sont satisfaits non seulement de son travail, mais à cause de son implication dans la communauté locale.
I've been coming here for almost 40 years.
Je viens ici depuis près de 40 ans. Lorsque tu arrives ici, c'est comme être en famille. Et de toute évidence, il est un excellent coiffeur et me donne toujours une meilleure mine.
Diego est coiffeur depuis plusieurs décennies et malgré quelques problèmes de santé, il n'a toujours pas l'intention de passer la main.
Je veux vous dire très sérieusement, j'aime mon travail, j'aime les gens, j'aime voir les gens, j'aime les servir et ça marche, il m'apporte de l'argent.
L'âge de ce fameux coiffeur reste un mystère. Même les personnes qui travaillent quotidiennement avec lui ne savent pas s'il prendra sa retraite un jour. Une de ses employées témoigne.
Personne ne connaît son âge. Je pense qu'il a toujours le même aspect.
Apparemment, il ne vieillit pas, mais quel est son secret?
Ne pense pas que tu es malade ou vieux. Je ne pense jamais que je suis vieux.
Diego D'Ambrosio envisage de garder les portes ouvertes pour encore longtemps, car pour lui, les termes « entreprise fermée » ne feront jamais partie de son vocabulaire.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, cela fait 400 ans que les premiers esclaves africains sont arrivés aux États-Unis, marquant le début de plus de deux siècles d'esclavage en Amérique. Des millions de Noirs ont vécu dans la servitude jusqu'à l'adoption du 13e amendement qui abolit l'esclavage en 1865. Comment l'esclavage a marqué l'histoire des États-Unis? Quelles sont les séquelles de cet héritage? Quels progrès ont été réalisés? Les Africains américains et leur héritage? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.